Tournons ensemble maintenant dans la parole de Dieu. Donc ceux qui sont dans les premiers rangs, n'ayez pas peur. Je ne veux pas postiller sur vous. Mais j'aime bien être près de vous comme ça, hein. Je peux dire, repentez-vous. Alléluia. La Pâque est la fête chrétienne la plus importante pour nous. Et nous allons voir aujourd'hui ensemble, si on peut peut-être un peu réduire mon micro, c'est très très fort sur l'estrade. Nous allons voir ensemble aujourd'hui que Dieu a mis en une soirée toute notre vie. Toute la vie chrétienne, toute la complétude de la vie chrétienne se retrouve le soir de la Pâque. Amen. Dieu a tout mis en Jésus. Amen. Et nous ne sommes pas ici seulement pour savoir, parce que vous savez, le mot savoir signifie avoir une information. Mais nous voulons comprendre. Parce que celui qui comprend, c'est celui qui saisit. Et nous voulons pas seulement sortir de l'église aujourd'hui, sortir de ce merveilleux culte de Pâques, en disant, ouais, belle chorale, super louange, on s'est vraiment éclaté, on a eu des bons moments. Il faut réduire un petit peu plus dans les retours, hein, c'est très très fort. On veut sortir d'ici aujourd'hui en disant, j'ai saisi quelque chose pour ma vie personnelle, amen. Je me suis approprié ce que Jésus a fait pour moi à la croix. Jésus l'a fait, maintenant c'est à nous de nous l'approprier, amen. On va prier ensemble si vous le voulez bien. Seigneur Jésus, merci pour ces instants, Seigneur. Merci pour ta parole, Seigneur. Seigneur, tu es la vie, tu es la vérité. Et il y a de cela des milliers d'années, tu as ouvert l'Exode. Tu as ouvert à tout ce peuple, tous ces gens qui vivaient dans l'esclavage, ces 600 000 hommes, plus les femmes et les enfants, tu leur as ouvert une nouvelle vie. Et Seigneur, nous voulons découvrir ensemble aujourd'hui à quel point la mort de l'agneau libère la toute-puissance de Dieu. Que les 9 premières plaies d'Égypte n'ont pas pu libérer ton peuple. Aussi grandioses qu'elles étaient, aussi spectaculaires les 9 premières plaies d'Égypte, elles n'ont pas pu ouvrir le chemin. Mais ce soir de la Pâque, un petit agneau a été immolé. Et en lui seul, dans sa mort seule, il y avait plus de puissance que dans le déploiement des 9 premières plaies d'Égypte regroupées ensemble. Jésus, tu as tout accompli pour nous. Et tu nous aimes. Et tu appelles tes enfants, même à travers les années, à comprendre de mieux en mieux, saisir de plus en plus ce que tu as déjà fait pour tes enfants, Seigneur. Et Seigneur, nous sommes ici pour cela. Esprit de Dieu, j'ai confiance en toi. Nous voulons maintenant prier contre toute distraction qui pourrait prendre place dans ce lieu. Nous sommes aussi conscients qu'il y a un combat spirituel et que si l'ennemi peut empêcher quelqu'un de saisir une parole de vie, eh bien, il pourra garder cette personne dans le mensonge. Alors, je prie contre toute distraction dans les pensées. Certaines personnes sont venues ici avec une vie perturbée, une vie mouvementée, une vie troublée. Leur esprit est sans repos, ils n'arrivent pas à se concentrer. Mais toi, Esprit de Dieu, tu sais apaiser les pensées maintenant. Tu sais nous captiver. Je prie même, Seigneur, quelqu'un peut texter, appeler. Il peut arriver tellement de choses dans les prochains instants, Seigneur. Mais nous prenons autorité par le sang de Jésus, afin que notre foi soit de plus en plus encouragée par ta parole. Et si quelqu'un est ici aujourd'hui et découvre peut-être pour là ou les premières fois, eh bien Seigneur, nous avons confiance que ton esprit fait plus que nous faire savoir. Il nous fait comprendre les Écritures. Quelqu'un dit Amen aujourd'hui. Amen. Hallelujah. Nous allons voir ensemble 3 choses, si vous voulez bien, ce matin. Nous allons voir que tout simplement, Jésus est, on est dans cette série, hein, Jésus est notre Pâque. Amen. Et le mot Pâques, c'est très simple, c'est des milliers d'années, si vous ne connaissez pas cette histoire, c'est l'histoire du peuple hébreu qui était esclave pendant, je crois, 430 ans en Égypte. Et Dieu envoya un homme, un serviteur qui s'appelait Moïse, et il vint, et Dieu déploya 9 fois sa puissance pour mettre l'Égypte à genoux et par terre, afin que le pharaon libère le peuple, pour qu'il puisse partir. Mais les 9 premières plaies n'ont pas suffi. Et Dieu dit, la dernière plaie, c'est la plaie de la mort. C'est l'ange de la mort. C'est même écrit, on va le voir ensemble dans un instant dans la Bible. C'est écrit, il y a un destructeur qui va venir. Et ce soir-là, il va rentrer dans toutes les maisons, dans toutes les familles. Que ce soit le prisonnier qui est en prison, que ce soit dans la cour du Pharaon, il va entrer même dans la maison du Pharaon, qui était le grand prêtre spirituel, représentant des divinités pour tous les Égyptiens. Même lui sera frappé. Et ce sera son premier-né. Et le premier-né avait une signification très importante, parce que le premier-né, c'était l'héritier. C'était comme une perte d'héritage, une perte d'avenir. C'était toucher la force d'une famille lorsque ce destructeur allait entrer. Et les Hébreux étaient les esclaves de ce peuple égyptien. Et les Hébreux vivaient dans, on pourrait vraiment dire ce soir, une sorte de ghetto qui s'appelait Goshen, le pays de Goshen. C'est un emplacement où ils étaient tous confinés ensemble, ils vivaient les uns sur les autres. Et Dieu dit à son peuple, ce soir, il va se passer quelque chose de différent. L'ange de la mort, le destructeur, va venir, il va aller dans chaque maison, partout, même chez les Juifs. Même chez les Hébreux. Mais vous, ce soir-là, vous allez immoler, vous allez égorger un agneau, vous allez prendre de son sang et vous allez le mettre sur le linteau des portes. Et Dieu dit, je verrai le sang et j'empêcherai le destructeur d'entrer. C'est beau, hein? On va voir ensemble trois vérités aujourd'hui, si vous voulez bien. Premièrement, Jésus est notre protection. Deuxièmement, Jésus est notre satisfaction. Et troisièmement, Jésus est notre libération. Mais premièrement, Jésus est notre protection. Il est écrit, ça paraît à l'écran, alors le Seigneur, et même vous savez, on va lire le texte ensemble, c'est très important de lire la Bible. On va le prendre dans Exode 12, si vous le voulez bien. C'est bien, je suis tellement haut là, je peux voir si vous avez votre Bible. Ça va, il y a quelques téléphones, c'est bon. Exode, chapitre 12, c'est ta Bible, Samuel? Oui, oui, c'est OK, bien sûr. Verset 21. Moïse convoqua tous les responsables d'Israël et leur dit, « Allez chercher un agneau ou un chevreau par famille. Prenez-le, immolez-le comme un agneau pascal de la Pâque. Ensuite, vous prendrez un bouquet d'hysope, vous le tremperez, verset 22, dans le bassin contenant le sang de l'animal, et vous en badigeonnerez, hein, vous l'appliquerez sur le linteau des deux montants de vos portes. Aucun de vous ne passera la porte de sa maison pour sortir jusqu'au matin. » Il faut rester à l'intérieur, il faut être protégé. Verset 23. L'Éternel parcourra l'Égypte pour la frapper. Quand il verra le sang sur le linteau et sur les deux montants de vos portes, il passera par-dessus la porte et ne permettra pas au destructeur de pénétrer dans votre maison pour porter ses coups. Regardez ce que ça dit. Il passera par-dessus. Pécha, qui veut dire la Pâque, il veut passer par-dessus. La Pâque veut dire il passera par-dessus. C'est ce que ça veut dire la Pâque. On continue. Vous observerez toutes ces prescriptions comme une institution. Maintenant, nous voulons voir ensemble ce matin que premièrement, Jésus est l'agneau de Dieu. Ce qui s'est passé le soir de la Pâque, c'était si vous me permettez l'expression, Dieu a fait une grande mise en scène pour prophétiser la venue de Jésus. Et que Jésus, vous savez, Jésus est mort le jour de la Pâque. Et le vendredi saint, Jésus est mort. Et c'était le soir de la Pâque. Jésus a même mangé la Pâque avec ses disciples la veille. Et puis le lendemain, il est mort à la croix. Et trois jours plus tard, il est ressuscité. Donc le week-end de la Pâque, Jésus a été vraiment l'agneau de Dieu. Et quand Jean-Baptiste l'a vu, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, dans l'agneau ici, dans cette histoire, dans ce petit agneau, nous voyons Jésus. Et si vous connaissez un peu l'Apocalypse, dans l'Apocalypse, Jésus est appelé plus souvent l'agneau que tout autre titre. Le titre le plus utilisé pour Christ au ciel, dans l'Apocalypse, c'est l'agneau de Dieu. Jésus est notre agneau. Il est l'agneau pascal. Il est le sacrifice qui donna sa vie pour nous. Mais dans quelle utilité? Premièrement, il est notre protection contre la mort. Regardez ce que ça dit. Alors le Seigneur passera devant la porte et ne laissera pas le destructeur entrer dans vos maisons pour frapper. J'aimerais dire ceci aujourd'hui. Toute maison, toute famille, tout foyer, tout couple, tout cœur, toute âme qui n'a pas le sang de Jésus et qui n'a pas l'agneau est sans protection. Le monde aujourd'hui, sans Jésus, n'a aucune protection. Les gens peuvent faire semblant que tout va bien, les gens peuvent avoir une saison dans leur vie où tout va bien, mais il vient un moment où la destruction vient, où le destructeur vient dans leur vie. Maintenant, je ne dis pas que les chrétiens ne traversent pas d'épreuves. Les chrétiens passent des moments parfois même parfois plus difficiles que certains non-chrétiens. Mais on ne parle pas ici d'épreuves de protection nécessairement extérieure, mais surtout intérieure. Le plus important, ce n'est pas comment ma vie peut être frappée. Mon couple peut traverser des moments difficiles, mes enfants peuvent traverser des épreuves, je peux avoir des moments très durs au boulot, au travail, je peux avoir même des moments de confusion dans ma vie, mais il y a une protection intérieure. Jésus veut garder, protéger une paix intérieure chez les chrétiens. Amen. Et ça, c'est le sang de Jésus. Les gens qui vivent sans Christ, on peut avoir une paix. Si vous vivez sans Dieu aujourd'hui, vous pouvez avoir une paix qui vous est fournie par toutes sortes de choses, mais cette paix, elle est futile, elle est temporaire, elle va passer. Seul l'agneau de Dieu empêche la destruction de venir dans une vie. On peut être secoué, mais pas détruit. On peut être éprouvé, mais pas détruit. Et Paul en parle beaucoup dans ses épîtres. Il dit parfois, on vit des moments difficiles, mais nous ne sommes pas anéantis. Donc, on ne prêche pas à l'évangile ici qui dit que vous n'aurez jamais de problème si vous suivez Jésus. On a des épreuves quand on suit Jésus. Mais la destruction, le destructeur, la mort ne peut pas rentrer. Et même si on traverse des moments difficiles, ces moments les plus difficiles de nos vies ne sont pas la finalité. Parce que la mort est une finalité. Et notre vie est protégée. L'aîné est protégé. L'aîné, c'était l'héritier de l'avenir. Ton avenir est protégé en Jésus-Christ. Ton lendemain est assuré en Jésus-Christ. Si tu vis sans Dieu, c'est vraiment un risque énorme. Parce que la destruction, un jour, rentrera. La mort entre où l'agneau n'est pas. Maintenant, j'aimerais dire ceci, deuxièmement. Le sang suffit. Nul besoin de se barricader, de fuir, de lutter ou de se justifier. Premièrement, le sang suffit. Nul besoin de se barricader. Les gens qui vivent sans Dieu, les gens qui ne mettent pas leur confiance en Jésus, et même, faisons attention en tant que chrétien, Jésus est le fondement de notre paix, de notre confiance. Certaines personnes vont se confier dans leur relation. Ils croient que, moi j'ai déjà vu des gens comme ça, dès qu'ils ont un problème, t'inquiète, j'ai des relations, j'ai des contacts, tac. Tu peux avoir beaucoup de relations, mais ça n'équivaudra jamais la protection qui vient par le sang de Jésus. Certains mettent leur confiance dans leurs études. J'ai rien contre les études. Certaines personnes sont appelées à faire des études très poussées. Mais même si Dieu te demande de faire des études très poussées, ne mets pas ta confiance dans le système. Mets ta confiance dans le sang de Jésus. Ne mets pas ta confiance dans ta carrière. Aujourd'hui, les gens n'ont que ça. Vous savez, la plupart des gens, quand on les rencontre sur leur vie, on leur dit tu fais quoi dans la vie? Et ils répondent je suis. Il répond pas « Je fais ». Tu fais quoi? Il répond « Je suis médecin ». Médecin, je peux dire « Oui, je peux comprendre que tu es médecin, j'ai rien contre ça. Si vous êtes médecin, Dieu vous bénisse. Hein? » Mais dire « Je suis », c'est dire « C'est ton identité ». Voyez-vous? Pourquoi? Parce qu'on a aujourd'hui une société où notre identité, c'est notre carrière. Et moi, avant d'être pasteur, je suis un enfant de Dieu. Je suis un adorateur. Pasteur, c'est une fonction, c'est un titre. Oui, ça fait partie de mon identité. Mais bien avant d'être pasteur, bien avant de faire ce qu'on fait comme travail, nous sommes enfants de Dieu. Le monde met toute sa foi dans sa carrière. Le monde répond, je suis comptable. Je peux comprendre, mais je t'ai demandé ce que tu fais. Je peux demander ce que tu es. Je fais de la comptabilité. Mais tu n'es pas nécessairement comptable quand tu dors la nuit. Voyez-vous? Notre confiance, notre foi n'est pas dans notre carrière. Notre confiance, notre foi n'est pas dans notre famille. Il y a des gens qui mettent toute leur confiance dans leur famille, leurs proches, leur famille, c'est tout pour eux. Et je vous dis ceci, tout va être secoué dans votre vie. Tout. Toutes les sphères de la vie d'un homme, à un moment donné, seront secouées. Et même peut-être votre famille sera secouée. Et ce jour-là, Dieu, même si tu es un enfant de Dieu, Dieu viendra peut-être toucher là où tu mets ta confiance, parce que Dieu regarde au cœur. Il ne regarde pas ce que tu te fais croire, il ne regarde pas ce que tu dis, il ne regarde pas ce que tu penses. Dieu regarde aux intentions. Et si Dieu voit que ta famille, c'est tout pour toi, c'est tout ton attache, c'est exactement tout ce à quoi tu t'accroches, tous tes liens sont tellement forts avec ta famille, il est possible qu'à un moment donné, ta famille soit frappée. Parce qu'il est tellement important pour Dieu que ce soit lui, d'abord, qui est la source de notre protection. Amen. Ni l'argent, ni les assurances. Aujourd'hui, on assure tout et n'importe quoi. Vous pouvez avoir des assurances top, extra de luxe, incroyable. Vous pouvez être assuré, je ne sais plus jusqu'à quelle génération. Tu vois? On assure tout aujourd'hui. Et j'ai rien contre ça. Il faut prendre des assurances vie. Il faut assurer certaines choses. C'est quand même important. Mais même si on est assuré, parce que petite parenthèse, même si on est assuré, parfois on a des problèmes avec ses assurances. Notre foi n'est pas dans nos assurances. Attention, notre assurance est dans le sang de Jésus. Il y a sur le cœur du chrétien le sang de Jésus. Et même si tu ne comprends pas, même si tu... Maintenant, j'aimerais voir dans un instant, il n'y a rien de mystique dans le sang de Jésus. Mais notre foi, notre assurance, Jésus est notre protection contre la mort. Oui, parfois le chrétien peut passer par des moments difficiles, mais Jésus est la protection. L'épreuve ne sera pas une finalité. Amen. Deuxièmement, Jésus est notre satisfaction. Dites avec moi satisfaction. C'est extrêmement important. Je vais vous montrer qu'il y a un lien pour Dieu, il y a un lien direct entre manger l'agneau et mettre son sang sur la porte de mon cœur. Regardez ce qui est écrit, ça paraît à l'écran. On prendra de son sang et l'on en badigeonnera les deux montants des lintours de la porte des maisons où il sera mangé. Trouvez-vous la personne à côté de vous et dites-lui où il sera mangé. Dieu est Dieu. C'est lui qui décide. On ne peut pas faire de compromis avec ce qu'il dit. On ne peut pas prendre qu'une partie. Regardez, il y a une condition extrêmement importante pour le Seigneur. On mettra le sang sur les linteaux des portes, là où on le mangera. Vous voyez où je m'en vais? C'est très important. Dieu dit, dans la maison où sera l'agneau, là, on mettra le sang sur les linteaux, et là sera une puissance. Je ne sais pas, moi, j'étais pas là ce soir-là, mais peut-être qu'un Égyptien est venu voir un Hébreu, puis lui a dit, passe-moi un peu de sang. Peut-être qu'un Hébreu a dit, « Ben moi, j'ai pas prévu manger de l'agneau ce soir, on va se faire un des crêpes, on va pas manger de l'agneau ce soir, mais je vais quand même mettre le sang sur les linteaux. Je vous garantis, ça n'aurait pas marché. » Ce n'était pas le simple fait de mettre le sang sur les linteaux, ça ne suffisait pas là pour Dieu. Dieu dit, le destructeur n'entrera pas là où on mange l'agneau. On met le sang sur les portes. On met le sang sur la porte, hein, sur les linteaux de la porte. Là, je ne peux pas être plus clair, hein, si vous n'êtes pas d'accord, vous allez voir le Seigneur. Hein. Regardez ce que ça dit. Le linteau de la porte des maisons où il sera mangé. Pourquoi? Parce que Dieu regarde à une chose. Il regarde toujours au cœur. Jésus est l'agneau de Dieu. Jésus a versé son sang. C'est à nous de mettre notre confiance dans ce qu'il a fait. Amen, on l'a vu ça. Mais ça ne suffit pas pour Dieu. Dieu dit, où est l'agneau dans ta vie? Où est Jésus pour toi? Est-ce qu'il est ta satisfaction? Est-ce qu'il est quelqu'un que tu vas voir à l'occasion? Est-ce qu'il est quelqu'un que tu vas chanter à l'église puis après tu retournes à ta vie? Ou bien est-ce que l'agneau de Dieu est chez toi, dans ta maison? Et ça dit vraiment ceci, ça dit, vous allez le cuisiner. Vous allez le manger, vous allez faire un repas ce soir-là. Et maintenant, je vous dis ceci, si vous pensez que la scène, la communion, c'est quelque chose qui devrait être lourd et tristounet et un peu endeuillant. Non, c'était une fête juive. Le mot hébreu, c'était célébration. Le mot hébreu, c'était vous allez tourner en rond, vous allez danser en cercle. C'était une fête de joie. C'était une soirée de célébration. Et le désir de Dieu pour tous ses enfants, c'est que Christ soit pas quelque chose que j'utilise pour mes fins personnelles, mais c'est que Christ soit personnellement ma pleine satisfaction. Est-ce que vous mangez l'agneau aujourd'hui? Est-ce qu'il est dans votre maison? Est-ce que, et Jésus l'a dit, hein, Jésus l'a même rappelé dans les évangiles, Jésus est la parole de Dieu. Il a utilisé cette expression aussi, cette image en disant, je suis le pain du ciel, la manne du ciel. Et j'ai une question pour vous aujourd'hui. Est-ce que vous mangez l'agneau? Est-ce que vous mangez la parole de Dieu? Est-ce que Christ, est-ce que votre communion, je ne suis pas en train de parler de rite, hein, que si tu ne lis pas ta Bible une journée, c'est bon, c'est foutu, le destructeur va rentrer ce soir. Non. On n'est pas dans ce genre de système de religiosité. Je parle ici d'une amitié, d'une communion avec Christ, où Jésus est avec toi tous les jours de ta vie, où il est précieux pour toi du matin jusqu'au soir. Tu ouvres les yeux le matin, c'est Jésus. Tu fermes tes yeux le soir, c'est Jésus. Et si Jésus est ta satisfaction, eh bien Dieu dit, ta vie sera protégée. La protection, elle est pour la maison où là, on va manger l'agneau. J'aimerais qu'on puisse mettre le sang n'est pas l'abracadabra des évangéliques. Dites avec moi, abracadabra. Le sang n'est pas l'abracadabra des évangéliques. Dieu protège la vie qui se satisfait en Jésus. Je dis cela parce que je l'ai vu dans certains milieux chrétiens où des gens utilisent le sang de Jésus et après ils viennent voir le pasteur et disent « ça ne marche pas ». J'ai appliqué le sang de Jésus. J'ai dit, je suis allé, Même ils font des gestes, ils font toutes sortes de choses. On n'a plus à faire ces gestes-là. C'est juste une question de confiance en Jésus. Il y a des gens, moi je me souviens, une dame a dit, tous les matins, j'applique le sang de Jésus sur mes enfants, elle fait des gestes sur ses enfants. Là, on est dans du mysticisme. Tu peux prier pour tes enfants, tu peux inviter tes enfants à mettre leur confiance en Jésus, mais tu n'as pas besoin de faire des gestes avec de l'hysope le matin, croyant que tes enfants seront mieux protégés à l'école parce que tu as appliqué le sang de Jésus, tu l'as proclamé sans Jésus sur eux. C'est juste une question de faire confiance en Dieu. Mais il y a des gens, il y a des chrétiens aujourd'hui qui appliquent le sang de Jésus et après ils viennent nous voir et disent « ça ne marche pas ». Je vais vous dire pourquoi ça ne marche pas. Parce qu'ils ont gardé leur vie. Ils font ce qu'ils veulent. Ils regardent n'importe quoi à la télé. Ils regardent des choses à la télé qui attristent le Saint-Esprit. Ils ouvrent la bouche, ils disent des choses qui attristent le Saint-Esprit. Ils ont de l'amertume contre quelqu'un, ils ne pardonnent pas une autre personne. Ils ont un comportement qui déshonore Dieu. Ils ne cherchent pas à être agréables à Dieu. Christ n'est pas leur satisfaction. Ils mangent toutes sortes de choses, parfois empoisonnées spirituellement. Et après, ils appliquent le sang de Jésus, ils se demandent pourquoi ça ne marche pas. Et bien voilà pourquoi ça ne marche pas. Parce que Jésus n'est pas ta satisfaction. Quand Jésus-Christ est ta satisfaction, tu mets ta confiance en lui et Dieu va honorer ta foi. Le sang sera appliqué là, dans la maison où il sera mangé. Quelqu'un dit amen aujourd'hui. J'aimerais dire ceci aussi, regardez ce qui est fort. Toute la parole doit être reçue. Dieu dit ce soir-là, c'est fort, il dit vous mangerez tout l'agneau. Mais les os et le reste et tout. Il dit, tout ce que vous n'aurez pas mangé, vous le brûlerez. En d'autres mots, qu'est-ce que Dieu cherche ici? Dieu cherche à ce que Christ complètement, Christ uniquement et complètement, soit mon entière satisfaction. Je ne peux pas prendre, on dit to pick, je ne peux pas prendre ce qui me concerne et ce qui me convient dans la parole de Dieu. Je dois tout prendre. Moi, je prends un gigot d'agneau, tu vois. Je ne veux pas prendre la tête, je ne veux pas prendre la fesse, je ne veux pas prendre la hanche. Moi, je prends telle partie, moi, je veux le filet mignon. Non. Tu prends tout. Tu prends tout, Jésus. Tu prends ses promesses, mais tu prends aussi ses exigences. Tu considères ce qu'il offre, mais tu considères aussi ce qu'il demande. C'est lui qui définit ce qui est bien et ce qui est mal. Ce n'est pas toi. Et quand tu manges Christ au complet, il y a des versets qu'on n'aime pas. Il y a des proverbes qu'on n'aime pas. Jésus dit, tu pardonneras 70 fois 7 fois par jour. Oh, oula, quand même. Hein. Tu prends tout. Vous mangerez tout l'agneau. Amen. Et quand l'agneau est ma satisfaction, quand je veux tout l'agneau de Dieu, amen, et quand je mets ma confiance dans ce qu'il a fait à la croix, j'ai cette protection et j'ai cette satisfaction. Amen. C'est extraordinaire. Maintenant, je vais aller un tout petit peu plus loin parce que je vois que j'ai un peu de temps. C'est très fort parce que le mot « Pâques » signifie « passer par-dessus ». Mais un peu plus tard, Moïse se retrouvera seul avec Dieu. Et Dieu lui dira « Je veux faire passer tout mon amour sur toi. » Et c'est le même mot. « Je veux te couvrir de mon amour. » J'aimerais vous dire ceci, il y a un secret dans la Pâque. C'est que lorsqu'on mange l'agneau de Dieu, lorsqu'on va dans la parole et qu'on cherche à connaître Jésus, Dieu va nous révéler son amour. Dieu va te montrer à quel point il t'aime. Et Dieu va te montrer à quel point il aime les gens autour de toi. Et quand tu vois, là je parle de révélation, je ne parle pas de savoir, je parle de, c'est une révélation spirituelle que tu dois vivre avec Dieu. Mais quand le Seigneur te montre qu'il aime ta patronne, eh bien il va se passer un miracle. Tu vas commencer à aimer ta patronne. Et la pression qu'elle met, l'énervement peut-être qu'elle a au bureau, et que tu dis, mais c'est pas possible, mais tu vas la voir différemment. Et vous savez, la Bible dit, l'amour parfait enlève la peur. Donc tu vas arriver au bureau, tu vas avoir pitié d'elle. Tu ne la verras plus comme avant, ta patronne. Tu vas te dire, non, mais elle a tellement de pression, elle doit vivre des moments difficiles, et Dieu l'aime, et je vais prier pour elle. Et tu vas arriver au bureau, tu n'auras plus le même regard sur cette personne qui met une pression sur toi, parce que tu auras de l'amour. Parce que en mangeant l'agneau, comme Dieu dit à Moïse, je ferai passer, c'est le même mot que la Pâque, je ferai passer mon amour sur toi, et je vais te donner de l'amour pour les gens autour de toi. Amen. Et ça, c'est le cœur de l'Église. Le christianisme, c'est une histoire d'amour. Amen. C'est Dieu qui nous a tant aimés, mais les chrétiens aussi, ce sont ceux qui manifestent l'amour de Dieu dans le monde. Amen. Et Jésus dit, quel mérite avez-vous si vous aimez ceux qui vous aiment? Dis-donc. Mais Dieu fait quelque chose lorsque je me nourris de Jésus. Son amour vient en moi. Et je me mets à aimer des gens que je n'aurais pas aimés avant. Amen. Et Dieu me donne un nouveau regard, et ça me relâche, ça apaise ton âme, et tu vois les gens d'une façon différente. Manger l'agneau de Dieu, je vous dis cela aujourd'hui, c'est la seule satisfaction dans la vie. Quelqu'un dit amen. Amen. Quelque chose de très important aussi que Dieu dit, nous allons bientôt terminer, ça dit, je me suis posé la question, mais pourquoi le Seigneur n'a pas dit, il y aura un seul agneau pour tout le peuple? Parce qu'en fait, Jésus, il y a un seul Jésus-Christ pour tous les chrétiens. Pourquoi est-ce que Dieu a dit, non, il y aura un agneau par famille? Parce que l'agneau de Dieu, Jésus, c'est d'abord quelque chose de personnel entre Dieu et toi. La foi, elle est collective, mais elle est d'abord personnelle. Ma relation avec Dieu ne dépend pas d'un culte. Allô? Mon avancement dans la vie chrétienne ne dépend pas seulement du mardi soir, du dimanche. Ouah, franchement, j'étais porté. Oh là, la chorale. Ouah, ils m'ont donné des ailes. Mais demain, ils ne seront pas là, la chorale, dans le métro. Tu vois? Donc, l'agneau de Dieu, c'est pour toi, personnellement. Je vous garantis, je l'ai vu, je le vois et je le verrai toute ma vie. Tous les gens qui demeurent enlisés dans des situations, les enfants de Dieu qui demeurent enlisés dans des situations qui n'arrivent pas à s'en sortir, ont tous quelque chose en commun. Ils ne se nourrissent pas de l'agneau de Dieu à la maison. J'en suis convaincu. C'est impossible d'avoir une relation intime et personnelle, une communion avec Jésus dans le secret. Manger l'agneau chez toi, c'est impossible. Manger l'agneau et ne pas être fortifié, c'est impossible. Impossible. Impossible se nourrir de lumière et rester dans les ténèbres. Impossible. Impossible manger la joie et rester dans la tristesse. Impossible. Impossible manger la sainteté et continuer à toujours retomber dans le même péché. Impossible. Jésus est la solution à tous nos problèmes. Il est notre pleine satisfaction. Et Dieu regarde nos vies. Et Dieu honore lorsque Jésus est notre pleine satisfaction. Quelqu'un dit amen? Amen. Jésus est notre satisfaction. Et en terminant, Jésus est notre libération. Regardez ce que ça dit. Mangez-la ainsi. La ceinture aux reins, les sandales aux pieds, le bâton à la main, vous la mangerez à la hâte. Wow! Et dans mes recherches, j'ai vu des fresques et des photos, même lors des premières photos du premier siècle, dans certaines communautés juives, ou très orthodoxes, où on célèbre la Pâque vraiment à la façon biblique de Exode 12. C'est très intéressant de voir que même des petits garçons, on leur met une ceinture, on leur met des sandales, on leur met un bâton, et on mange la Pâque, on ne s'assoit pas, on mange la Pâque autour de la table, debout. Pourquoi? Regardez, c'est extraordinaire. Dieu dit, tu vas mettre des sandales pour manger la Pâque, tu vas ceindre ta ceinture et tu vas la manger un bâton à la main. Parce que quand tu manges Jésus, quand Jésus est tout pour toi, ça ne sera pas long, une porte va s'ouvrir. C'est tellement beau ce que Dieu a fait le soir de la Pâque. Pendant qu'il célébrait, l'esclavage s'est arrêté. Pendant qu'il célébrait, la porte de liberté s'est ouverte. Et il y a des gens qui cherchent de midi à 14 heures, à droite à gauche, du pôle nord au pôle sud, ils vont partout, ils cherchent comment s'en sortir. J'aimerais vous dire ceci, je ne vais pas banaliser, je sais que parfois certaines situations sont compliquées, mais je vous dis ceci, si tu te nourris de Jésus-Christ, Dieu va ouvrir une porte pour toi. Dieu ouvre une porte pour ceux qui honorent son Fils. Si ta confiance est dans l'agneau de Dieu, si le sang de Jésus est sur ta vie, il y a une protection. Si Jésus est ta satisfaction et si tu te nourris de lui, s'il est précieux, si on peut voir la Bible quelque part chez toi, dans ton appartement, si tes enfants peuvent témoigner, « Oui, maman, je la vois parfois lire la Bible. » Moi, j'ai grandi comme ça. Moi, je voyais mes parents lire la Bible. Hein? Il y en a qui... Mais si Christ est ta satisfaction, Dieu te dit, « Je vais ouvrir une porte pour toi. » Parce que la ceinture, c'était pour se préparer à partir. Les sandales, c'est parce qu'on allait sortir de la maison. Le bâton à la main, c'est parce qu'on allait faire un long voyage, tu vois. Et Dieu ouvre toujours une porte pour ceux qui se nourrissent de Jésus-Christ. Amen. C'est beau, hein? La première libération, elle est celle du péché. Tu peux aller jusqu'au bout du monde, mais s'il y a des péchés qui sont pris dans ta vie, tu peux changer d'église, tu peux changer de ville, tu peux changer de programme, tu peux changer de bouquin, tu peux changer de conseiller, tu peux changer de psychologue, tu peux changer de plein de trucs. Mais si tu manges l'agneau de Dieu, il y a une libération du péché qui vient. Je l'ai dit tout à l'heure, il ne peut pas y avoir quel lien. Paul a dit, quel lien y a-t-il entre les ténèbres et la lumière? Impossible. Quand on se nourrit de Jésus, il y a une libération du péché. Peut-être que tu luttes avec des convoitises, peut-être que tu luttes avec des passions, des choses difficiles, avec un caractère, avec une impulsivité, avec une colère. Dieu sait la lutte qu'il y a dans ta vie. Mange. Mange Jésus. Mange cette communion, cette amitié avec Jésus-Christ. Et tu vas voir, il y a une libération qui va venir. Dieu va libérer ta vie. Quelqu'un dit amen?
Amen.
Et Dieu nous amène toujours dans le plan qu'il avait prévu pour nous. Ce soir-là, je termine. L'agneau, un petit agneau âgé d'une année, tout fragile, tout blanc, a donné sa vie. Il s'est déployé ce soir-là plus de puissance que toutes les 9 plaies d'Égypte précédentes. Ils ont trouvé une protection. La mort ne pouvait plus rentrer dans leur vie. Ils ont trouvé une satisfaction même dans leur petite maison d'esclaves. Et Dieu a ouvert une porte qui s'est ouverte jusqu'à la terre promise. Amen. Dieu ouvre toujours une porte pour celui et celle qui se nourrit de Jésus-Christ. Amen. Hallelujah. Je veux dire ceci, et puis après on va conclure, je vais conclure avec un très beau témoignage. Un peu plus tard, dans Lévitique 14, on trouve un homme dans la loi qui est un lépreux, qui a été guéri de la lèpre. Et Dieu dit, il viendra au temple, hein, il viendra à la maison de Dieu, au tabernacle, et le sacrificateur va faire quelque chose pour lui. Regardez bien, je termine avec ceci. Parce que ça a à voir avec la Pâque. On va immoler un animal, on va prendre le sang de l'animal, et voici ce qu'on va faire sur cet homme. Donc cet homme représente un chrétien. Le chrétien, c'est un ancien lépreux. Vous êtes des anciens lépreux. Savez-vous, vous êtes des anciens lépreux? On était des lépreux spirituels. Hein? La lèpre, c'est le péché. Et on vient se présenter à la maison de Dieu. Maintenant, on est dans la maison de Dieu, on se présente à Dieu. Et Dieu dit au sacrificateur, vous allez faire quelque chose sur cet homme, qui maintenant est purifié. Vous allez mettre du sang sur son lobe, sur son pouce et sur son gros orteil, les trois du côté droit. Et puis après, vous allez mettre de l'huile sur le sang du lobe, du pouce et de l'orteil. Et tu te dis, mais Dieu, il fait des choses bizarres quand même, parfois. Mais tout a un sens pour Dieu. Le sang de Jésus, c'est lui qui fait qu'on peut entendre la voix de Dieu. Il y a des chrétiens qui essaient tellement d'entendre Dieu par leur mérite. Si je suis meilleur, si je suis meilleur, si je suis encore plus spirituel, si je prie encore plus, j'entendrai la voix de Dieu. Je n'entends pas la voix de Dieu parce que je suis bon, j'entends la voix de Dieu par le sang de Jésus.
Amen.
Dieu dit à Jérémie, je te creuserai une oreille pour entendre ma voix. Tous les enfants de Dieu ont le droit légal d'entendre la voix de Dieu. Amen. Après, le pouce, la main c'était pour servir. Je peux servir mes frères et sœurs par le sang de Jésus. Et le pied, c'est pour avancer. Je peux avancer dans la vie, pas par mes mérites, par le sang de Jésus. Et peut-être que je ne vois même pas la force d'avancer, mais par je ne sais même pas comment j'avancerai, comment je m'en sortirai, je ne sais même pas comment je vais aller de l'avant. Mais je choisis de ne pas écouter ma réalité, mais de mettre ma confiance dans le sang de Jésus. Je ne sais pas comment le Seigneur va faire, mais il va faire avancer les choses. Mon pied va avancer, ma vie va avancer par le sang de Jésus. Amen. Le sang est pour Dieu. Je termine. Je fais trois fois, je termine, mais là, vraiment, je termine. Le sang est pour Dieu. Comprenez ceci. Le sang, c'est pour la justice. C'est pour qu'on puisse mériter quelque chose qu'on ne mérite pas. Donc, le sang, la vie est dans le sang. C'est écrit, la vie d'un homme est dans son sang. Donc, la vie parfaite de Jésus-Christ mérite à ma place toutes les promesses de Dieu. Mais voici quelque chose qui est unique. Si vous étudiez les religions, vous allez voir quelque chose qui est unique au christianisme comparé à toutes les autres religions. C'est ce qu'on appelle la substitution pénale. Seul Dieu, par Jésus-Christ, a institué quelque chose que même la justice de France ne reconnaît pas. C'est ce qu'on appelle la substitution pénale. Jésus a payé pour moi, Jésus a mérité pour moi et Jésus a acquis pour moi. Il est mon substitut et par lui, j'ai juste à mettre ma confiance en lui. Mettre ta confiance en Dieu, c'est appliquer le sang de Jésus à ta vie. C'est pas plus compliqué que ça. Et par cela, tu obtiens ce que tu n'aurais jamais pu obtenir autrement. Tu reconnais les mérites de Jésus, tu es co-héritier avec Jésus. Saviez-vous qu'il y a quelques années, on a découvert qu'un jeune homme en France purgeait la peine pour son frère de sang. Il ne s'est fait passer pour son frère, il est allé en prison. Il s'est commencé à se savoir en prison, les gardiens de prison l'ont appris, ça a duré quelques mois, et finalement le juge l'a sorti de là. Parce que dans la justice française, c'est celui qui a fait le mal qui va purger sa peine. C'est presque une injustice que quelqu'un d'autre, si tu as fait le mal, ton frère ne va pas aller en prison pour toi, c'est toi qui vas en prison. Mais avez-vous vu la grâce de Dieu? Dieu accepte. Je n'ai pas postillonné, pardonnez-moi. Dieu accepte la substitution pénale. On pourrait presque dire que c'est une injustice. C'est ce qu'on appelle la grâce de Dieu. Même si je n'utilise pas le bon mot, c'est la miséricorde de Dieu. Dieu te fait miséricorde. Tout ce qu'il te demande aujourd'hui, mets ta confiance en Jésus. Amen. Mais par Jésus, je peux entendre la voix de Dieu. Par Jésus, je peux servir. Et par Jésus, ma vie peut avancer. Et l'huile, c'est l'onction. L'huile, c'est la capacité de faire les choses. L'onction, ça veut dire que Dieu te donne la capacité de faire quelque chose pour lui. J'ai l'onction de Dieu, pas par mes mérites. Là où il y a le sang, on mettra l'huile. Là où je vais voir une femme qui met sa confiance en Jésus, je lui donnerai les capacités. C'est compliqué ce que je dis? Ça va? Amen, merci. Je termine. On va faire quelque chose en terminant aujourd'hui. On va prendre la Pâque ensemble. Et alors que les préposés s'approchent et commencent à la distribuer, je vais vous raconter un témoignage qui a touché ma vie. Il y a quelques années de cela. J'étais tout jeune pasteur. Je commençais, c'était les premiers mois que j'étais pasteur. J'avais 22 ans. Et un homme s'approche à l'issue du culte pour que je puisse prier pour lui. Et quand je le vois s'approcher, je me suis dit, je suis pas certain que je vais prier pour lui. Un grand gaillard qui est mordu dans un citron, comme ça, grosse botte de cow-boy, fesses de cuir, un vrai gangster et tout. Je dis, oh là là. Je cherchais des pasteurs pour m'aider, ils étaient tous partis. Alors je m'approche de lui. Je dis, est-ce que je peux prier pour vous? Et il me dit, oui. Il dit, monsieur le pasteur, je ne suis pas chrétien, je ne crois pas en Dieu, je ne connais rien de tout ce qui a été fait ce soir ici dans ce lieu. Mais je vous dis ma situation. J'ai un ami qui vient dans vos réunions, il est chrétien, tout ça. Il m'a dit de venir. Je vais vous dire pourquoi je suis là ce soir. Ça fait 16 ans que je suis accro au crack. Le crack, c'est une drogue encore plus forte que la cocaïne. J'ai fait des thérapies, j'ai fait tout pour m'en sortir. Il n'y a jamais rien qui a réussi. Et Il dit, je vous épargne tous les détails. Il dit, hier soir, j'ai pris mon pistolet, j'ai pris mon gun. Je suis allé dans la forêt, j'ai dit, je vais me flinguer, j'en peux plus. Et quand j'ai sorti mon arme pour me tirer, le bonnet de mon fils est tombé dans la neige. C'est au Canada. Le bonnet de mon garçon est tombé dans la neige. Mon garçon avait mis son bonnet dans ma veste. Et j'ai pris le bonnet de mon fils pour le sentir une dernière fois avant de mourir. Et j'ai entendu la voix de mon copain qui m'avait dit, donne une chance à Dieu. Donne une chance à Dieu. Et j'ai baissé l'arme, j'ai dit, j'irai à l'église une fois, mais j'ai tout essayé. Et si ça ne marche pas, vraiment, pasteur, je vous dis, vous allez prier pour moi ce soir. Si ça ne marche pas, je vais me flinguer. Donc je le regarde. Je ne sais pas passé, pourquoi ça m'arrive à moi des histoires comme ça. Personne pour m'aider. Et j'ai commencé à me déculpabiliser. Dis, vous savez, Jésus disait qu'il soit fait selon ta foi. Et là, le gars me regarde. Il dit, moi, je connais rien à la foi. C'est vous, le pasteur, c'est vous le professionnel, c'est votre métier. Vous priez pour moi, ça va, il va arriver quelque chose. Et moi, ça faisait quelques mois que j'étais pasteur, j'avais 22 ans, j'étais comme un gamin. J'avais tellement la trouille qu'il se flingue, tu vois. Et je dis, vous me donnez une petite minute, et je me recule, et je prie. Et je dis, Seigneur, je comprends rien. C'est trop grave comme situation. Et il y a une petite pensée qui est venue dans mon cœur qui m'a dit, c'est moi qui l'amène ici. T'as rien à voir là-dedans. C'est pas tes mérites. C'est entre lui et moi. Fais juste prier pour lui et tu vas être témoin. Je m'approche de lui, je prie pour lui. Il se passe rien, il pleure pas et tout. Il se ramène, merci. Il rentre chez lui. 4 mois plus tard, le dimanche matin, après le culte, je le vois débarquer dans l'église après le culte, assez énervé, et il cherche quelqu'un. Je dis, oh là là. Je prends ma femme qui est en train de parler avec des pasteurs de jeunes. Ma femme, elle parle avec des jeunes et tout. J'arrache ma femme. Mon sac. Je prends son sac. Je dis, on sort par derrière, on se barre. Il me rattrape. Il met sa main sur mon épaule. Pasteur, je dis, c'est bon, Jésus, j'arrive. Il enfile un grand sourire. Il me dit, il faut que je vous raconte ce qui s'est passé. Et ce soir-là, je ne comprenais rien, Jésus. Mais j'ai décidé de mettre ma confiance en lui. Et j'ai été instantanément délivré de 16 ans d'addiction à la drogue. C'est pas fini. Le pire, vous savez, ces gens ont toujours des problèmes. Il y avait 2 tueurs à gages qu'ils cherchaient. Et 3, quelques jours plus tard, ils l'ont trouvé. Et ils ont entendu les gars enfoncer en bas à la porte, commencer à monter à l'appartement. Et sa femme, ils étaient habitués, sa femme se lève, elle prend ses deux fils. Et il prend la main de sa femme et dit, non, on fuira plus. On va mettre notre confiance en Jésus. Elle dit, mais c'est... Non, non. À la vie et à la mort, je vais mettre ma confiance en Jésus. J'en ai assez de fuir. C'est ça, mettre le sang. C'est simplement ça. Ils se sont mis à genoux dans le séjour. Et pendant qu'ils priaient, ils ont commencé à voir des lumières bleues qui tournaient partout dans le séjour. Ils se sont ouverts les yeux. Il y avait des flics, des policiers partout. Ils ont arrêté les deux. C'était un guet-apens. Les policiers, les policiers spéciaux attendaient les 2 tueurs à gages. Et ils les ont arrêtés ce soir-là. Et cet homme était complètement libéré. Je l'ai revu il y a des années. 16 ans plus tard, il m'écrit un mail. Il dit, pasteur, est-ce que vous vous souvenez de moi? Je dis, est-ce que vous êtes celui que je pense que vous êtes? Il dit, je suis celui que vous pensez que je suis. Il dit, pasteur, il dit, aujourd'hui, je tiens un café chrétien au centre-ville. Et tous les soirs, ma femme et moi, on évangélise. Et on partage l'amour de Dieu. Cet homme a appliqué le sang de Jésus. Il a mis sa confiance dans les mérites de la croix. Et c'est tout ce qu'on a besoin de faire aujourd'hui. Amen. Tout est accompli. On va se lever ensemble, on va prendre maintenant la Pâque, on se dimanche. Alléluia. Tournons maintenant nos cœurs dans la prière. Alléluia. Alléluia. Peut-être êtes-vous ici aujourd'hui alors que, peut-être alors que les éléments circulent, simplement juste fermer nos yeux un instant et se recueillir en prière. J'aimerais prier pour vous aujourd'hui. Peut-être êtes-vous ici et vous dites, j'ai pas compris beaucoup de ce qui a été dit. Jésus, manger Jésus, tout ça c'est compliqué pour moi, pasteur. L'agneau de Dieu, la Pâque, mais je veux mettre ma confiance en Jésus. Je reconnais qu'il n'y a rien d'autre qui marche. J'aimerais prier pour vous. Peut-être êtes-vous ici aujourd'hui, vous avez mis votre confiance en Dieu. La situation est devenue pire. Le temps passe. Vous dites, mais ce n'est pas possible. Je mets ma confiance en Dieu et ça ne marche pas. Où est Jésus? Le Seigneur veut encourager ta foi ce matin. Continue. Continue. Il y a un temps parfois où Dieu ne répond pas, mais il vient un moment où Dieu agit. Je ne sais pas comment cette soirée a été longue pour les Hébreux, mais à un moment donné, la porte s'est ouverte. Et j'aimerais t'encourager aujourd'hui. Je ne sais pas l'épreuve que tu traverses. Je ne peux pas évaluer le temps qui est passé dans ta vie. Mais que Jésus soit ta satisfaction et que son sang soit ta protection. Et attends le Seigneur. Le Seigneur ouvrira une porte. Le Seigneur ouvrira une porte de libération dans ta vie. Il y a un temps. Il y a un temps où on est éprouvé, mais il y a un temps où Dieu agit. Dieu a toujours le dernier mot. L'épreuve de l'enfant de Dieu n'est jamais une finalité. La finalité, c'est la libération d'épreuves. Hallelujah. Seigneur, merci pour ton amour, Seigneur. Merci pour ta grâce, Seigneur. Gardons nos cœurs en prière ce matin. Pasteur Timothée va nous conduire maintenant dans un temps d'adoration. Gardez les éléments, on va tous les prendre ensemble. Pasteur Timothée va nous diriger. Mais Seigneur, merci. Jésus, tu es notre Pâque. Hallelujah. Et nous avons tout pleinement en toi, Seigneur.